Ce soir, m'entretenir sur un texte de l'évangile de Jean, au chapitre 12, à partir du verset 20 au verset 26. Jean, chapitre 12, à partir du verset 20 au verset 26. La parole de Dieu dit : « Il y avait quelques Grecs parmi les gens qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ils s'approchèrent de Philippe, de Bethsaïda en Galilée, et lui demandèrent : « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla dire à André, puis André à Philippe allèrent le dire à Jésus. Jésus leur répondit : « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd, et celui qui a de la haine pour sa vie dans ce monde la conserve pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Dans ce texte, nous voyons ces personnes qui étaient venues de Grèce, les Grecs, qui voulaient en réalité rencontrer Jésus. Pas seulement le rencontrer, ils voulaient le voir à l'œuvre. Nous voudrions voir Jésus. Cette question m'a interpellé depuis quelques jours parce que ce texte s'est posé sur mon cœur. Je me disais : « Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire ? » Et la première chose qui m'a interpellé, c'est les motivations. Nos motivations peuvent être un frein ou un moteur. Alors, on va voir les motivations qui sont un frein. En Luc chapitre 6, verset 7, il nous parle des scribes et des pharisiens qui observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour de sabbat. Il dit le texte, c'était afin de trouver un motif de l'accuser. Encore aujourd'hui, certains veulent voir Jésus pour voir quelles raisons peuvent trouver en réalité pour discréditer. Drôle de motivation. Une autre motivation ? Luc chapitre 23, verset 8. Il est question de Hérode. Hérode vit Jésus. Et il en eut une grande joie, car depuis quelque temps, il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait lui voir faire quelques miracles. Certains veulent voir Jésus parce que c'est une question de satisfaire leur propre curiosité. Encore une fois, une motivation qui est plus un frein que quelque chose qui va leur permettre de réaliser qui est Jésus. On va en prendre encore un troisième de frein. Et cette fois-ci, c'est en Jean chapitre 20, les versets 24 à 25. Et là, c'est un homme qui s'appelle Thomas. Vous connaissez le texte de Thomas ? Vous connaissez-vous Thomas ? Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. » Il est question de méfiance, d'incrédulité. Ce qui lui a été dit n'était pas suffisant pour Thomas. Combien encore aujourd'hui attendent de voir avec leurs propres yeux ? Pourtant, la parole l'aurait annoncé. Parfois, il y a des choses où la Bible, elle nous parle, on l'entend, on le voit, on le lit, mais on aimerait que Jésus nous le dise face à face. La Bible dit ceci : « Mais moi, attention, mais moi, hein, Thomas, si je ne mets pas le doigt, » vous savez, à force de mettre le doigt dans l'engrenage, on peut se faire mal. Hein ? Je me rappelle l'histoire d'un petit qui s'appelle Kevin. Quand il était petit, il s'appelait déjà Kevin. Maintenant, il est grand. Et il s'appelle toujours Kevin. Et ce petit, nous, on l'appelait un peu Eti. Vous savez, il est toujours avec son petit doigt. Et quand on le voyait partir avec son petit doigt, on savait qu'il allait mettre son doigt où il ne fallait pas. Et un jour, on entend crier. Parce qu'il a essayé d'ouvrir la porte d'un placard, il a mis son petit doigt, et après, comme il y a un ressort, vous savez, sur les systèmes de fermeture, le ressort s'est refermé, Kevin était trop petit. Et au lieu de tirer avec l'autre main, il poussait. Et donc, plus il poussait, plus il criait, Kevin. Et on lui a dit, mais on t'avait dit de pas mettre le doigt, Kevin. On est tous un peu comme ça. Il y a des choses dans lesquelles, malgré on puisse nous donner des avertissements, on est trop tenté de mettre le doigt. Thomas, il va dire, du haut de sa science, si je ne mets pas le doigt, si je ne touche pas, je n'y crois pas. Alors vous savez, Thomas, il s'est trouvé à faire face à Jésus après. Et là, quand même, ce n'était pas évident d'avoir la réponse de Jésus. Parce que Jésus, aux paroles de Thomas, il n'était pas présent physiquement. Et nous, parfois, quand on parle, on pense que le Seigneur ne nous entend pas. On dit, on fait des choses, et le Seigneur, il ne sait pas. Sauf qu'après, quand le Seigneur se montre, et se montre, je vais le dire, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et qui nous reprend avec les mots précis, Thomas, viens voir. Quoi, Seigneur ? Tu as dit que si tu ne mettais pas le doigt, non, mais Seigneur, viens, viens. Tu as dit que si tu ne mettais pas la main, ah, Seigneur, je crois. Tu crois parce que tu vois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il est question pour nous de cette attitude d'obéissance et de foi. Alors, si on a parlé des motivations qui sont un frein, Dieu soit loué parce qu'il y a des motivations qui sont des moteurs. Et j'espère que c'est cela qui nous conduise encore ce soir à nous retrouver ensemble. On va lire dans l'évangile de Jean. La parole de Dieu nous parle encore une fois de motivation. Jean chapitre 11, versets 20 à 27. Et là, encore une fois, c'est dans une situation bien particulière. Parce que vous savez, Jésus n'est pas là, excusez-moi, pour amuser la galerie. Mais il nous a fait une promesse, c'est celle d'être toujours avec nous. Surtout quand les choses vont mal. Mais il est question pour nous de dire, Seigneur, permets-moi de te voir, de voir ta main à l'œuvre. Là, on est dans la situation où Marthe et Marie viennent de perdre leur frère. Il a été déjà mis dans le tombeau. Ils attendaient Jésus, mais Jésus n'est pas venu à l'heure que eux, ils attendaient. Mais vous savez, Jésus n'arrive jamais en retard. Le texte nous dit, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, et tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Et lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Quelle était la motivation de Marthe de voir Jésus ? Il savait qui était Jésus. Au-delà du fait que là, elle témoigne, elle dit, toi, tu peux le ressusciter. Je sais qu'il ressuscitera au moment venu quand l'Église sera enlevée dans le ciel. Elle connaissait déjà des textes bibliques qui vont se produire dans l'avenir et qu'on espère proche. N'est-ce pas ? Elle dit, oui, je sais qu'un jour, mon frère ressuscitera. Mais elle vient voir Jésus parce qu'elle sait que Jésus est le Fils de Dieu. Sa véritable motivation de retrouver, de se retrouver avec Jésus, c'est parce qu'elle sait qu'il est le Fils de Dieu. C'est une motivation qui est un moteur. D'ailleurs, si vous reprenez la suite de l'histoire, quand Marie entend que Jésus est là, elle court. Elle court voir Jésus, elle tombe à ses pieds. Si tu avais été là, Seigneur. Elle savait que si Jésus avait été là, il n'y aurait pas eu de problème. Et encore une fois, Jésus lui dit, est-ce que tu crois ? Oui, Seigneur, je crois. Et la parole de Dieu nous parle et nous dit comment Jésus va ressusciter Lazare. Magnifique, non ? Mais la motivation de Marthe et Marie était leur foi en Jésus-Christ. Et je crois que c'est la meilleure des motivations qui peut nous amener à voir Jésus. Peut-être pas avec nos yeux physiques, mais avec nos yeux spirituels, nous verrons comment Dieu agit et l'autorité qu'il a posée sur les épaules de son Fils, qui est notre Seigneur et Sauveur. Un autre moteur, je vais parler de l'amour. Jean chapitre 20, verset 13 à 16. Jean chapitre 20, verset 13 à 16. Et là, on voit l'amour pour le Maître et Sauveur. Jésus a été mis au tombeau. Il a souffert. Ses mains ont été percées. Ses pieds ont été percés. Son front, sa tête a reçu une couronne d'épines sur laquelle on s'est amusé à taper pour que les épines rentrent bien. Son dos a été flagellé. Ça a été très dur. Les coups de fouet arrachaient la peau. Pas content de ça encore, on le perce. Alors ça donne un tableau où on s'imagine la quantité d'hémoglobine. Mais c'est pour nous qu'il a vécu cela. Et ceux qui aimaient Jésus ont souffert de voir Jésus passer par là. Surtout parce que puni injustement. N'est-ce pas ? Et le texte nous dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit, « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais où on l'a mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Pensant que c'était le jardinier, elle dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le reprendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». L'amour véritable, profond pour le Seigneur, le désir qui doit être le nôtre d'être là où Jésus est, peut nous amener à faire l'expérience que nous sommes avec une foi véritable, que Dieu nous ouvre les yeux pour que nous puissions voir la gloire du ressuscité. Si c'est cela la motivation qui nous amène à dire « je veux voir Jésus, je voudrais voir Jésus », certainement il y a un moment où le Seigneur va intervenir. Alors, pour que nous puissions voir le Seigneur agir, vous savez, quelles sont les motivations ? Qui sont les nôtres ? Sont-ils un frein ou un moteur ? Réfléchissons à nos prières. Quand nous demandons au Seigneur, est-ce que nous sommes motivés par des freins ou par des moteurs ? Est-ce qu'on veut voir la gloire de Dieu parce qu'on s'attend à lui, parce que notre foi est en lui ? Ou est-ce que comme certains, parfois, ils ont pu dire, oui, j'ai prié, mais je n'ai rien reçu. Un jour, un homme, il me disait, moi, j'ai prié, j'ai rien reçu. Et moi, je lui dis, mais moi, mon Dieu, quand je le prie, il m'écoute, il m'entend et il répond à mes prières. Ah, moi, j'ai prié et il ne s'est rien passé. Et je lui dis, vous savez, moi, quand je prie, mon Dieu, il intervient, il vient à mon secours. Et ça durait un moment. Et à un moment, cet homme, il se met en colère. Mais pourquoi vous dites votre Dieu ? On n'a pas le même ? Je lui dis, ben non, le vôtre, il est sourd, il est muet. J'ai dit, moi, le mien, il est vivant. On n'a pas le même Dieu. Il est important pour nous de savoir en qui on a placé notre foi. Et Dieu est capable de se montrer à nous d'une manière différente. Mais est-ce que c'est vraiment important de voir Jésus ? Moi, je crois qu'il y a des moments dans notre vie où on a besoin. On a cette nécessité de voir la gloire de Dieu se manifester dans notre vie. Et j'aimerais en parler encore avec vous parce que vous savez, Dieu connaît très bien les motivations de notre cœur. Je vous parlais tout à l'heure de Thomas, hein, qui pensait parler sans forcément être entendu par Jésus, mais Jésus connaissait très bien son cœur. On va lire un autre texte ensemble dans l'évangile de Jean, chapitre 6, à partir du verset 22. Et là, vous verrez la motivation des personnes de vouloir voir Jésus et comment Jésus répond. Et ces réponses peuvent nous interpeller, peuvent parfois même nous remettre en question par rapport à nos motivations personnelles. Au préalable, juste vous rappeler que Jésus se retrouve avec une foule qui n'a pas mangé. Et normalement, les disciples disent, ben, « Seigneur, renvoie-les chez eux. » Jésus dit, « Je ne peux pas renvoyer la foule, ils n'ont pas mangé. » Ils vont avoir des défaillances. Et il dit aux disciples, donnez-leur à manger. Comment ? Seigneur, tu ne vois pas la foule qui est là ? On n'a pas assez de pain, on n'a pas assez d'argent. Vous savez, en général, on voit toujours ce qu'on n'a pas. On a des difficultés à voir ce que nous avons déjà à notre disposition. Et là, Jésus multiplie le pain, les poissons, et la foule, elle est heureuse. Non ? Un bon repas, c'est super. Et là, Jésus, il les renvoie, ils repartent, mais ils reviennent le jour d'après parce qu'ils se disent, tiens, si ça a marché un jour, ça peut marcher toujours. Mais, il dit le texte, le lendemain, la foule qui était restée de l'autre côté de la mer vit qu'il ne s'était trouvé là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais que les disciples étaient partis seuls. Mais d'autres barques arrivèrent de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur ait rendu grâce. Et quand les gens de la foule virent que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum, à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent de l'autre côté de la mer et lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus répondit, « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père Dieu a marqué de son sceau, et lui dire « Que ferons-nous afin de travailler pour les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « Ce qui est l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous te croyions ? Quelle œuvre fais-tu ? Nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit. Il leur donna à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain venu du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Et lui dire, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Jésus leur dit, « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendra à moi et je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, voici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Voici en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. » Jésus désire que chacun d'entre nous puisse le voir et croire. Mais oh, combien de personnes ont pu voir des choses, voire même des miracles, et encore en réclamer en disant « si tu nous fais encore un miracle, je vais croire ». On met des conditions à Dieu. On essaye de marchander avec Dieu. On essaye de dire au Seigneur « tu devrais me convaincre que tu existes ». Excusez-moi, mais c'est un peu ça, non ? Et pourtant, le monde entier, la nature, elle nous dit que Dieu existe. Vous savez pourquoi dans la Bible, Dieu ne fait pas de manière à prouver son existence ? Parce que pour nous, ça devrait être une réalité qui ne se remet pas en question. Ça devrait être pour nous quelque chose que nous avons déjà intégré au plus profond de notre cœur et de notre vie. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Alors ces hommes, ils avaient goûté au pain et au poisson. Ils étaient heureux. Et ils se sont dit, mais si ça pouvait marcher pour nous comme ça a été pour ceux qui étaient dans le désert. Mais vous vous rappelez ce qui s'est passé dans le désert ? À un moment, ils en avaient un peu marre de manger que de la manne. Et ils se sont attirés quand même des conséquences. Comme quoi le cœur de l'homme, il est tordu. Je me permets de le dire, celui des femmes aussi. L'être humain, il est tordu. Comme ça, je ne fais pas de jaloux. Parce que ça serait trop facile de dire, ah oui, les hommes, ils ont le cœur tordu. Les femmes aussi. On a assez d'histoires dans la Bible qui nous le prouvent. Hein, et on n'a pas besoin d'aller loin pour réaliser que notre cœur, il est tordu. Et parfois, on essaie de voir de quelle manière nous pouvons gagner le plus avec le Seigneur. De quelle manière on peut conduire Dieu à nous donner ce qu'on veut. Et oui, penser pouvoir attirer Jésus dans un piège en disant, ben allez, je vais vous faire un nouveau miracle. Mais le Seigneur ne marche pas comme ça, parce qu'il connaît le plus profond de nos cœurs. Et Jésus leur dira, quiconque voit le Fils et croit. Il est question de croire. Il n'est pas question de manger, excusez-moi, à l'œil. Il est question d'être nourri du pain qui vient du ciel. Et celui qui a goûté à ce pain qui vient du ciel n'aura plus jamais faim. Et s'il ne veut pas avoir soif, il est question pour lui de croire. Il y a un moment où il faut prendre la décision. Et cette décision, vous savez, peut amener à un prix à payer. Alors sommes-nous véritablement prêts à payer le prix pour voir Jésus ? Il y a deux manières de pouvoir voir Jésus. En tous les cas, c'est réservé à tous les hommes et toutes les femmes de voir Jésus. Mais il y a deux manières différentes de le voir. La première, en tant que juge. La deuxième, en tant qu'avocat. La somme n'est pas la même. La facture n'est pas la même. Alors j'aimerais vous parler d'un homme qui a vu Jésus. Et il a pu voir Jésus parce que dans son cœur et dans son âme, il y a des choses qui l'ont transformé en profondeur. Il a vu Jésus à un moment particulier de son existence. Il a vu Jésus dans la place qui lui revient de droit. Pourtant, cet homme, il a dû accepter de payer le prix pour voir Jésus. Et l'évangile n'est pas quelque chose qui nous est donné comme s'il n'avait pas de valeur, ça a une grande valeur. Le sacrifice de Christ a une grande valeur. Et on ne peut pas marchander le prix. Il y a un homme qui a marchandé le prix pour livrer Jésus. Combien ? 30 pièces. Vous savez, si on faisait le taux de change au prix d'aujourd'hui, ça correspond à un tout petit peu moins que 15 euros. Pas grand-chose pour la vie d'un homme, non ? Terrible ! Comment imaginer de vendre Jésus pour 15 euros ? Mais même 100 euros, mais même 1000 euros, mais même 100 000 euros, la vie du Sauveur. Et vous savez, parfois, on ne donne pas la juste valeur au sacrifice de Christ. Donc faisons attention à dire, ah, c'est pas grand-chose 15 euros. Des fois, vous savez, vraiment pour pas grand-chose, on estime le sacrifice de Christ d'une manière terrible. On va lire ensemble Jean, chapitre 12, versets 22 à 20, 23 à 26. Vous vous rappelez, on l'a lu tout à l'heure. Il dira, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Il est question qu'il meure pour qu'il porte du fruit. Il est question qu'il soit glorifié. Il est question que celui qui aime sa vie, en réalité, la perd. Mais celui qui n'a pas peur de perdre sa vie pour le Seigneur, en effet, il est gagnant. Qu'est-ce que le Seigneur nous demande de relâcher? Il y a des fois, on se dit, devenir enfant de Dieu, ben, je ne peux plus faire ce que je veux. Cet après-midi, j'avais un entretien avec un jeune homme qui me disait, moi, j'attends encore parce que il y a des choses que je veux faire dans ma vie. Alors, j'ai dit, fais-moi la liste. Et j'ai dit, mais tu te rends compte? Que des bêtises. Que des bêtises. Oui, mais quand on devient chrétien, on ne peut plus rien faire. Non. Quand tu es chrétien, tu vis autrement. Tu peux mieux faire. C'est différent. Et quand Jésus nous parle du prix à payer, certes, le salut nous est offert. Mais je crois que nous avons un prix à payer pour Christ, n'est-ce pas? Et si quelqu'un n'y était pas encore convaincu, on va lire juste deux versets. Actes chapitre 7, versets 55 et 56. Il dit que Étienne, un des disciples de Jésus, le premier qui est mort en martyr, rempli d'esprit, alors qu'il est mis en cause, alors qu'il est amené devant les tribunaux parce qu'il était question de mettre un grand coup à ce nouveau fléau qui est l'Évangile, Étienne va parler à la foule de qui ? De Jésus. Il ne va pas essayer de fuir la situation ni les circonstances. Il ne va pas essayer de se sortir de cette situation en cherchant des mots que tout le monde va apprécier en disant « Mais oui, on s'est trompé, Étienne, il n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais, Étienne. » Nous, on aimerait que tout le monde nous aime. Mais dites-vous que si on n'a pas aimé Jésus, et que si on aime vraiment Jésus, on ne sera pas aimé non plus. N'est-ce pas? Alors le texte nous dit « Mais Étienne, rempli d'Esprit Saint, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. » Comment voir Jésus? C'est accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Comment voir Jésus? C'est aussi accepter de se laisser remplir par le Saint-Esprit. Comment voir Jésus? Accepter de souffrir pour le Christ comme lui-même a accepté de souffrir pour nous. Comment voir Jésus? Fixer nos regards vers le ciel avec le désir de voir la gloire de Dieu. Et si cela est notre désir, si cela est notre véritable moteur, croyez-moi, chacun d'entre nous verra le Seigneur. Chacun d'entre nous, il y a un moment, il sera assis à table avec le Seigneur. Mais tous ceux qui ont choisi le frein, quand vous tirez le frein, vous n'avancez pas. Êtes-vous d'accord? Vous avez beau forcer, vous n'avancez pas. Et il est question pour nous d'enlever ce qui est un frein pour que finalement nous puissions nous servir du moteur qui est la foi pour voir Jésus. Mais pour cela, encore une fois, j'aimerais que chacun d'entre nous se rappelle, à l'exemple d'Étienne, à l'exemple aussi de tous ceux et celles qui se sont attachés à Christ par amour, Vous rappelez cette femme au sépulcre? Est-ce que vous rappelez de Marthe? Est-ce que vous rappelez de Marie encore une fois? Quelle était la motivation? La foi en Jésus-Christ. Il y a même un homme petit. Il voulait voir Jésus. Et comme il était trop petit, il va choisir de monter sur un arbre. Il y a foule. Pas facile d'être petit, hein. Et parfois, être grand, c'est pas facile non plus. On passe pas partout. Et là, ce petit bonhomme, il est là, il veut voir Jésus, mais la foule, il lui empêche de le voir. Et finalement, il monte sur un arbre. Et quand Jésus passe, il lève la tête et il l'appelle par son prénom. Il s'appelait comment? Vous le connaissez, vous aussi? Zachée. Et Jésus lui dit, Zachée, descends, je veux venir manger chez toi. Waouh, chez moi. Moi, le plus petit. Oui, chez toi, Zachée. Descends ton arbre. Si nous, on veut vraiment voir Jésus, si la motivation est celle de rencontrer le Sauveur, le Seigneur saura se révéler à nous. D'une manière ou d'une autre. Alors, j'aimerais vous inviter à fermer vos yeux. Et je voudrais inviter ceux qui ont dans leur cœur une véritable et bonne motivation à dire, Seigneur, je veux voir ta gloire. Peut-être sera question de temps, mais Seigneur, j'ai la foi que je sais qu'un jour mes yeux te verront, Seigneur. Ce n'est pas important que je te voie peut-être aujourd'hui, je verrai ta manière de faire, ta manière d'agir. Je sais, tu as fait la promesse d'être à mes côtés, Seigneur. Et avec foi, je crois que tu es là. Tu me tiens par la main. Et Seigneur, un jour, mes yeux te verront. Oui, toi qui es debout, à la droite du Père. C'est toi qui vas me permettre, Seigneur, finalement de rentrer dans la présence de Dieu. C'est toi qui as pris ma place à la croix. Seigneur, je voudrais te demander encore ce soir de rendre nos cœurs, nos motivations, nos sentiments purs. Que nous ne soyons pas, Seigneur, motivés par les choses de ce monde. Que nous ne soyons pas motivés, Seigneur, par des mauvais désirs. Que nous ne soyons pas motivés, Seigneur, par la volonté de profiter d'un miracle. Ou tout simplement que tu nous sortes d'une situation difficile pour après reprendre le cours de notre vie. Mais que nous soyons motivés par la foi, que nous soyons motivés par un véritable amour, que nous soyons motivés, Seigneur, par le fait que nous reconnaissons que tu es Jésus, le Fils de Dieu. Seigneur, et là, Seigneur, nos yeux spirituels, Seigneur, seront ouverts pour que nous puissions te voir tel qu'il est. Seigneur, le jour où on sera devant toi, ta parole nous dit qu'on pourra te reconnaître. Seigneur, nous verrons celui que dont les mains ont été percées, dont les pieds ont été percés, Seigneur, on sera devant toi. Seigneur, et malgré le grand désir qui sera le nôtre de te voir, Seigneur, telle est ta splendeur, telle est ta beauté, ta grandeur, Seigneur, que nous ne pourrons que incliner nos têtes devant ta majesté. Et encore ce soir, nous voulons te dire, Seigneur, nous voulons incliner nos cœurs devant toi. Seigneur, aide-nous. Aide-nous et permets-nous un jour, Seigneur, de te voir. Donne-nous la force, Seigneur, de marcher par la foi et de marcher avec foi. Et encore, Seigneur, ce soir, si quelqu'un, Seigneur, désire, Seigneur, si quelqu'un aspire, Seigneur, véritablement à te rencontrer, mais qu'encore il n'a pas fait le pas de te donner son cœur, Seigneur, nous voulons t'inviter à rentrer dans ce cœur. Si quelqu'un ce soir voulait inviter le Seigneur dans son cœur, je voudrais vous inviter juste un instant à lever votre main, on va prier ensemble. Oui, amen. Oui, amen.